Et nous retrouvons notre invité, donc Thierry Paco, Raphaël Bourgois. C'est la dernière partie de la grande table.
Et oui, Antoine, vous avez en quelque sorte volé mon chapeau, comme on dirait ici, puisque voilà, je vais quand même vous représenter, Thierry Paco, philosophe. Vous publiez donc ce livre « Désastre urbain, les villes meurent aussi ». C'est à la découverte, un essai qui s'appuie donc sur ce qu'on pourra appeler à la suite d'un philosophe comme Jean-Pierre Dupuis, un catastrophisme éclairé. C'est à la fois un essai qui analyse des phénomènes objectifs, rappelés par Antoine Mercier à l'instant, des grands ensembles, les centres commerciaux, les gratte-ciels, les gated community, les grands projets pris individuellement comme des exemples finalement de cette folie urbaine, peut-être qu'on peut le dire comme ça, mais aussi un essai qui s'autorise des digressions philosophiques, passer comme vous le dites de vérités de faits sur ces grands ensembles à des vérités de raisonnement, voilà, enfin vous le dites à la suite d'autres. Alors peut-être une première question sur cette notion de désastre, hein, désastre urbain, pour comprendre un petit peu d'où vous partez et votre pensée, Thierry Paco. Vous citez Blanchot à la toute fin du texte, vous dites « Le désastre ruine tout en laissant en l'état ». En quoi est-ce que cette idée s'applique aujourd'hui au fait urbain, au phénomène urbain ?
J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment tiré des leçons, mais le peut-on du reste, de ce que j'ai appelé ces désastres urbains. Et donc du coup, on va les rectifier, on va les réhabiliter, on va voir même les déserter et construire à côté, mais le désastre restera là quand même. Hein. Donc c'est d'où la phrase de Blanchot. Lui, il l'applique à tout à fait autre chose, évidemment, mais bon, ça me faisait plaisir de citer cet auteur que j'aime beaucoup. Maintenant, les cinq dispositifs que vous avez recensés, en fait, au départ, je ne pensais pas qu'ils étaient des désastres. Je voyais bien que ça marchait pas, que ça collait
pas. D'ailleurs, ils sont pas pensés comme tels.
Non, au contraire, même généreusement, il y a des gens qui croyaient bien faire. Hein. Il y a des hauts technocrates qui sont convaincus que c'était des bonnes choses.
Un grand projet, donc les cinq thèmes dont vous parlez. Oui, oui. C'est quoi finalement un grand projet ? Peut-être qu'on peut préciser ça.
Le grand projet, c'est ce qu'on appelle les grands projets inutiles aujourd'hui, où il y a des zadistes qui s'y opposent un peu partout. C'est en fait le toujours plus grand. Non pas le toujours mieux, mais le toujours plus.
Donc l'aéroport Notre-Dame-des-Landes,
donc le Grand Paris, par exemple. Voilà, le Grand Paris, le Grand Bordeaux, le Grand Lyon, enfin tous les grands trucs qui sont en train de se mettre en place et qui vont dans le, qui sont un peu naïvement dans l'idée que plus c'est grand, mieux c'est. Et moi, je pense que les villes posent toujours une question de taille, de dimensionnement, ne serait-ce que pour des pratiques démocratiques, des pratiques de gouvernance, etc. Et donc, c'est pas par hasard si la cité idéale, entre guillemets, de Platon, c'est 5040 personnes, que le phalanstère fourriériste, c'est 1620, que la cité jardin de Ebenezer Howard, c'est entre 30 000 et 35 000, que les villes de la Slouchita sont de 80 000 maximum. Alors, bon, moi, je propose un chiffre beaucoup plus important, bien sûr, mais qui est le million, mais non pas pour une seule agglomération, mais pour ce que j'appelle des territoires urbains.
Pourquoi réduire la quantité alors que c'est plutôt une question de qualité, on a le sentiment, dans ce que vous dites ?
Les deux vont ensemble, mon commandant. C'est-à-dire qu'il y a qualité et quantité, ça va ensemble. Et effectivement, dès qu'on a une mauvaise qualité, alors on a une quantité qui n'est pas ad hoc, qui ne correspond pas à ce qu'on attend. Mais il faut bien partir de l'idée que la ville, pour moi, c'est la conjonction de trois qualités, hein, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Vous en perdez une, vous perdez tout. Donc, dans la gated community, dans l'enclave résidentielle sécurisée, on n'a pas la diversité, puisqu'on a plutôt une population assez homogène au niveau des revenus, au niveau de la culture, etc. Donc, n'ayant pas la diversité, on perd les deux autres en même temps, d'une certaine manière. Et le centre commercial, c'est la caricature, évidemment. C'est d'abord un centre qui décentre la ville, qui se met à l'écart et qui modifie totalement la configuration territoriale et qui, par ailleurs, ne valorise qu'un échange, qui est l'échange marchand. Ce n'est pas la conversation, ce n'est pas le commerce, comme on disait au XVIIe siècle.
Alors Thierry Paco, on a demandé à Michel Lussault, géographe qui participe régulièrement à l'émission, de lire votre essai. C'est un géographe qui connaît bien, hein, cette question du phénomène urbain. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore faire de la géographie sans s'intéresser à la ville ? Vous nous le direz peut-être, Michel Lussault. Mais j'aimerais savoir d'abord comment est-ce que vous avez lu cet essai de Thierry Paco ?
Il est difficile de faire de la géographie sans s'intéresser à l'urbain, puisque l'urbanisation du monde est en train de se généraliser. Et Thierry Paco a été un des
55%
premiers.
55% de la population
voilà,
mondiale, d'après les chiffres.
On ira jusqu'à 70%, et je crois que Thierry Paco a été un des premiers à nous éveiller à cette dimension-là. On retrouve d'ailleurs dans ce livre toute la qualité des livres précédents, c'est-à-dire une sorte de capacité à poser des questions à partir d'une problématique philosophique, mais aussi, vous le savez, d'une grande attention à l'étymologie, à l'histoire. l'histoire des mots, à la géo-histoire des mots et des concepts qui donne à tout livre de Thierry Paco une capacité de stimulation tout à fait notoire. Mais je voudrais poser quelques questions aux critiques, je l'espère, parce que c'est difficile pour moi. Nous avons un vieux compagnonnage avec Thierry depuis plus de 20 ans qui fait que je suis assez souvent d'accord avec ce qu'il dit, mais néanmoins je vais essayer de trouver des éléments de désaccord. On sent dans votre livre une critique très, très importante de ce que l'on pourrait appeler la démesure. Qui effectivement passe par la critique que vous faites des grands projets, des grandes structures, des immeubles de grande hauteur. Vous faites en ce moment partie d'un courant de pensée. On a reçu ici même Olivier Rey, par exemple, qui dans un livre insistait aussi beaucoup sur cette problématique de la démesure. Mais du coup, là, la question qu'on aurait envie de vous poser, et vous y répondez d'ailleurs, mais c'est une manière pour moi d'inciter par cette réponse à préciser une chose qui me paraît importante, comment établir ce que serait la juste mesure ? Comment établir la bonne mesure de l'urbain ? Où placer le curseur ? L'urbain doit-il être à la mesure de l'homme, c'est-à-dire l'urbain doit-il être simplement, exclusivement centré sur l'être humain en tant qu'il est un corps avec une taille et un rapport perceptif très particulier à un environnement qui est toujours pour lui un environnement immédiat, ou y a-t-il d'autres formes de mesure? J'aimerais un peu que vous réagissiez à cette question apparemment simple mais qui en réalité ne l'est pas. Qu'est-ce qui étalonne la bonne mesure de l'urbain que vous appelez de vos voeux à travers la critique de la démesure urbaine contemporaine ?
Thierry Paco.
La démesure, évidemment, c'est quantitatif, mais pas seulement. C'est un terme très difficile, du reste, que mesure, parce que la mesure, ça peut être aussi norme, ça peut être du coup normalisateur, et ça me plaît pas beaucoup, et ça évite la diversité des situations. Alors je préfère parler de juste mesure, comme Thomas d'Aquin parlait du juste prix, voilà. Et donc c'est cette idée-là. Et évidemment, elle ne peut pas être donnée. Donc on va pas décrire justement ce que serait la ville de la juste mesure, par exemple 103 000 habitants et pas un de plus sur tant de kilomètres carrés. Pour moi, ça me semble absurde.
Mais ne pensez-vous pas, pardon, qu'il y a une certaine dérive aujourd'hui chez certains théoriciens de la juste ou de la bonne mesure à justement devenir aussi normatif que les ingénieries normatives qu'ils critiquent?
Ah oui, absolument, vraisemblablement. Et du coup, je vais à mon tour les marquer mon désaccord et les critiquer. Je n'hésiterai pas à les critiquer. Je pense même que dans la démesure, il y a une dimension de très grande satisfaction, de la transgression. Le plaisir, il est là aussi. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que on parle de consommation raisonnée, par exemple, mais le fait de vouloir à un moment donné être dans le gaspillage, dans le potlache, c'est aussi jouissif. Donc je vois pas pourquoi je m'interdirais à un moment donné une fantaisie qui serait démesurée. Mais évidemment, là on parle d'autre chose, on parle pas du comportement de l'individu, on parle d'une collectivité, d'une société qui est urbaine. Et je pense que la qualité de l'urbanité fait qu'il y a vraisemblablement une question de dimension que Lewis Mumford appelle la juste plénitude. Je préfère ce mot plénitude à celle de taille ou de mesure, parce que quand on parle de mesure, généralement on sort son modulor.
Mais ça évolue dans le temps quand même.
Donc ça évolue totalement dans le temps.
En fait, on gagne en avançant, on gagne absolument. Quand même la possibilité d'agrandir. Vous avez parlé d'un million, c'est pour ça, on en est là.
Oui, parce que je m'inscris dans les travaux de Paul Béroc, déjà ancien, et lui il citait plutôt 500 000, 600 000 habitants, pour dire que fiscalement parlant, on pouvait doter et satisfaire cette population au niveau santé, au niveau université, au niveau opéra, au niveau concert, tout ce que vous voulez. Et moi, du coup, à la louche, évidemment, j'en arrive à un million. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour répondre à Michel Husseau, c'est que cette juste mesure ne sera pas la même dans un pays historiquement urbanisé comme la France et dans un pays qui commence à l'être comme le Nigeria, par exemple.
France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois.
et avec Thierry Pacaud, le philosophe qui publie « Désastre urbain, les villes meurent aussi ». La question que vient de poser Michel Lusseau, Thierry Pacaud, en appelle une autre, peut-être d'un caractère encore plus philosophique, c'est celle du rapport entre la ville et l'utopie, finalement. Puisque quand on pose la question de la juste mesure, c'est un peu la question de la ville idéale, vous avez cité Lewis Mumford, vous le citez aussi dans votre introduction, et vous dites finalement à sa suite, ce qui importe, c'est que la ville reçoive pleinement le concours de la pensée et des arts, et que tous les efforts de la science soient consacrés à l'étude des forces cosmiques et des processus écologiques dont dépend l'existence de tous les êtres vivants. Et alors évidemment, quand on lit ça en rapport avec la question de l'urbain, qui paraît être une question très concrète, très ancrée dans la réalité, on se demande comment est-ce qu'on peut penser efficacement avec encore l'idée de l'utopie en arrière-plan, j'allais dire, Thierry Pacaud.
Alors là, bon, là, vous me faites plaisir, parce que, et tant mieux, merci, parce que l'utopie, évidemment, est un compagnon de route depuis très très longtemps. Pour moi, l'utopie n'est pas totalitaire, il peut y avoir des dérives, évidemment, totalitaires, on en connaît, mais il y a une utopie joyeuse, il y a une utopie qui attribue à l'architecture et à la taille de la ville une qualité, j'allais dire, essentiellement existentielle. Et même dans l'utopie pendant la première, de 1516 de Thomas More, il y a 54 villes, alors elles sont identique, ça me plaît pas trop, mais il y a 54 villes dans lesquelles réside toute la population qui est massivement une population agricole. Donc ce sont des paysans, on va le dire comme ça, des agriculteurs, mais qui partent le matin au champ, ils reviennent le soir, ne restent dans les fermes que ceux qui s'occupent des troupeaux pour faire la traite des vaches, etc. Bon. Donc on a une population urbaine, pourquoi ? Parce que pour Thomas More, la ville c'est synonyme de civilisation. Et donc l'accès aux arts, à la culture, à l'inutile, c'est la ville. Et donc pour ça, bah, il faut qu'on crée cet environnement-là. Alors lui aussi, il a un chiffre, mais c'est secondaire. Moi je m'aperçois quand on réfléchit comme ça historiquement, que Paris, quand Paris avait 400 000 habitants, c'était une ville qui en même temps avait des peintres, des musiciens, des poètes. Donc,
à quelle époque c'était ?
Pardon ?
Quelle époque vous parlez ?
C'est au XVIIIe siècle. Ouais. Hein, donc c'est quand même le siècle des Lumières. Bon, Paris a 600 000 habitants pendant la Révolution française. Bon, Londres en a 1 million. Mais donc c'est pour montrer aussi que l'idée actuelle, parce que je l'entends très fréquemment, hein, c'est même celle des Nations Unies, d'Habitat 3 qui aura lieu à Quito en 2016, c'est de laisser entendre que le destin de l'humanité, c'est des mégalopoles. Et que ça, c'est génial. Et qu'il faut qu'on ait 30 millions d'habitants. Et ça va être super. Et que là, on aura je sais pas combien de milliers de Vivaldi, de Michel-Ange, de Brunelleschi, etc. Je ne sais pas si c'est automatique que ça. Je ne sais pas si c'est en accroissant la population d'une ville qu'on va la stimuler culturellement, intellectuellement, spirituellement. Au contraire, je pense que ça provoque des ségrégations nouvelles qu'on n'avait pas du tout soupçonnées et qui sont, pour moi, des entraves, justement, à cette culture partagée.
C'est là que ça bascule, Thierry Pacaud, puisque pour l'instant, en parlant d'utopie, on a la presque optimiste, ce qui n'est pas vraiment le cas de votre essai.
Non, pas du tout.
Qui porte bien son titre, un désastre urbain. Et donc, oui, c'est la dimension politique, finalement, qui nous fait basculer. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais c'est ces deux phénomènes que vous décrivez, ceux de l'enfermement et de l'assujettissement, et c'est là que ça bascule. Finalement. Et oui. En quoi, excusez-moi, parce que je vais quand même préciser ma question, c'est en quoi ces deux phénomènes d'enfermement et d'assujettissement sont liés à ce gigantisme que vous décrivez, et donc on l'entend hein, même dans les cas que vous étudiez, grands ensembles, gratte-ciel, donc c'est grand tout de suite, les grands projets, voilà, en quoi est-ce que cette question politique est liée à ce phénomène urbain ?
C'est lié à ce phénomène de urbanisation, j'allais dire de désurbanisation, on va le dire comme ça, comme on parle de société qui déshumanise, là je crois qu'il faut inventer un terme et lui donner ce sens-là, ce n'est plus urbain. Ce n'est plus urbain, c'est bon. Alors, ces cinq dispositifs, au départ, quand je l'ai commencé à les écrire un par un, faire une sorte de monographie successive, je n'avais pas trouvé ce refrain qui revient ponctuer chaque chapitre qui est « et le grand ensemble, et le centre commercial, et ceci et cela, assujettissent et enferment ». Et je me suis aperçu en l'écrivant que c'était ça. Et c'est lié à la société productiviste. Il faut bien comprendre ça. Mon livre s'attaque à une période de l'histoire de la ville qui est produit par le productivisme industriel, mais qui a aussi une répercussion que je n'évoque pas dans ce livre parce que je me focalise sur les villes, mais dans le monde rural. C'est-à-dire que l'agriculture productiviste aujourd'hui est aussi dans le toujours plus et dans cette espèce de démesure. Et donc si on veut décroître les villes, il faut décroître aussi la production des campagnes. C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors, sauf que le capitalisme est beaucoup plus malin que ça, évidemment. Il est à étudier avec beaucoup de subtilité. Le capitalisme dit solide de la première révolution industrielle est en voie de disparition, sauf peut-être en Chine et dans quelques endroits comme ça. Mais nous sommes dans un capitalisme liquide qui, aujourd'hui, exerce une sorte de mépris total par rapport à la territorialité. Et donc, du coup, il flexibilise le temps de travail et il flexibilise le rapport au lieu. Alors, c'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup. Et je pense que le lieu de l'existence, c'est un lieu de la liberté. Alors là, je suis tout à fait bachelardien. Et donc, c'est le contraire de l'enfermement et de l'assujettissement.
Michel Lussault.
Ce que vous venez de dire explique sans doute la raison pour laquelle dans votre livre vous êtes très discret sur la question du rôle possible, souhaitable, envisageable des réseaux sociaux, des télécommunications numériques, dans la possibilité pour les individus enfermés et aliénés et assujettis, eh bien peut-être de composer d'autres types de rapports à l'altérité, d'autres types de rapports au lieu, d'autres types de manières de concevoir leur habitation du monde. Il y a une relative discrétion de cela. Est-ce dû au fait que vous pensez effectivement que ces technologies et cette culture, cette anthropologie nouvelle du numérique qui se développe est fondamentalement aliénante de la relation fondamentale de l'individu au lieu? Est-ce que parce que vous considérez qu'il s'agit du dernier avatar de cette phase particulière du capitalisme que vous critiquez? En d'autres termes, ne croyez-vous pas, comme d'autres activistes critiques de l'urbain, il y avait Noémie Klein dans ce studio, je crois, il y a deux jours,
lundi,
vous n'avez pas l'air de croire que ces outils, ces instruments peuvent aussi constituer de nouvelles formes de mise en place de communautés politiques, de revendications et instaurer peut-être de nouveaux types de rapports au lieu, c'est-à-dire de nouveaux types d'ancrage, de nouveaux types d'urbanité.
Vous allez même plus loin, hein, Thierry Paco, vous parlez de villes sans temps et sans lieu, qui ont même... l'espace-temps a été explosé.
Oui, absolument. Bien sûr, mais alors ça ne veut pas dire pour autant que je vais faire le procès des technologies, alors je ne dis pas nouvelles, puisqu'elles sont déjà anciennes de plus de 30 ans.
De l'information et de la communication.
Voilà, mettons du numérique pour aller vite, ou sans aux États-Unis, on dirait du data, bon, tout est data. Évidemment, je prends ça en considération, sauf que je le pose d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer que la condition humaine est au moins relationnelle, situationnelle et sensorielle, et que par le numérique, là encore, je peux être relationnel, je peux être situationnel, mais je ne suis pas sensoriel. Donc, je suis situationnel, bien sûr, parce que j'ai même une adresse mail. Donc, je ne sous-estime pas l'importance des territorialités hors sol, des territorialités numériques. Elles sont importantes. Moi-même, je loge quelque part sur le net, mais en même temps, je loge aussi physiquement, sensoriellement, dans un lieu géographique très particulier qui a sa climatique. Alors, maintenant, est-ce que je crois en une cyberdémocratie, par exemple? Est-ce que je crois que le mouvement des indignés va bénéficier du numérique? Oui, mais comme un outil, ce n'est pas la panacée. On le voit bien, du reste. Et Michel Lussault lui-même a écrit sur cette thématique pour expliquer comment, dans le printemps arabe, à un moment donné, ça suffit pas de communiquer par Internet. Il faut aller physiquement sur la place Tahrir. Il faut être là, à la place Taksim, à Istanbul. Et que c'est ça qui va créer, peut-être, une dimension du politique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le mot agora, en grec, vient du verbe agerain, qui signifie s'assembler. Ce qui est pour moi l'agora, c'est le rassemblement. Ce n'est pas un emplacement forcément délimité. Mais à un moment donné, il nous faut créer ce lieu urbain.
Est-ce que vous diriez que le capitalisme dont vous parlez a une intention de supprimer précisément cette territorialisation, cette situation dans l'espace-temps? Quel est le bénéfice?
Alors, je pense que c'est le capitalisme, dans la phase actuelle, est gêné, et ça avait déjà été remarquablement pointé par André Gors dans l'immatériel. Le capitalisme, c'est un paradoxe incroyable, hein, qui rend du coup obsolète aussi l'approche simplement marxiste, c'est que le capitalisme est comme gêné par le salariat. D'où la multiplication du précariat, d'où le recours à l'intérim, aux chargés de mission. On va tous être chargés de mission. Voilà, c'est ça qui va être super. Bon, et entre deux charges, c'est lourd, hein, deux missions, on aura enfin du temps pour soi. C'est ce qu'on nous dit. Bon, donc le capitalisme est gêné par cette temporalité-là et il est en train de la transformer fondamentalement. On le voit bien avec Internet, on le voit bien avec le téléphone que le portable que des salariés ont par leur employeur, comme s'ils sont joignables jour et nuit, le samedi, le dimanche compris, etc. Donc on voit bien que le temps de travail est en train d'être totalement modifié et repose sur les flux tendus. Et de la même manière, le territoire est un obstacle pour ce capitalisme-là. Donc lui, il rêve de quoi ? Il rêve d'une ville, je l'appelle le plateau technique. On vient brancher un TGV, on vient brancher un centre commercial, on va brancher une université, forcément d'excellence, évidemment. On va brancher un grand ceci, un cluster, hein, etc. Et puis ensuite, on débranche. Donc, il n'y a pas une espèce d'amitié entre un lieu et des activités.
Michel Lussault.
Oui, il faut lire les livres de Thierry Pacaud aussi parce qu'on reprend langue avec des auteurs comme André Gorce, Ivan Illich, etc., etc.
Qui sont très à la mode en ce moment.
On les entend beaucoup. Mais qu'il a été un des premiers à introduire dans la pensée urbaine. Une question peut-être assez philosophique, mais après tout, cher Thierry Pacaud, vous êtes philosophe et nous sommes sur France Culture. Si l'on fait le pari que la spatialité humaine se constitue dans la relation entre l'ancrage au lieu, la mobilité et l'interaction numérique désormais. On a l'impression que, admettons que cette tripartition soit juste, on a l'impression que vous privilégiez véritablement beaucoup la question de l'ancrage, que pour vous, l'être humain est d'abord ancré. Est-ce lié à votre grille de lecture, très fortement marquée par Heidegger ? Et par la conception de l'habité heideggerienne, que vous citez d'ailleurs, hein, l'être dans est un être avec les autres, qui vous pousse à insister sur cet ancrage, et peut-être, du point de vue d'un non-heideggerien, à sous-estimer les deux autres dimensions de cette spatialité, et donc de cette sociabilité qui est faite d'ancrage, de numérique et aussi de mobilité.
Thierry Pacaud.
Oui, non, je partage tout à fait ce point de cette trilogie, cher Michel Lussault. Et donc, du coup, ma lecture de Heidegger est une lecture qui essaye de la conduire, cette lecture, vers quelque chose que Heidegger avait quand même aussi examiné de près, qui est la question de la langue. Je pense de plus en plus que je travaille sur cette question, je pense qu'on habite avant tout sa langue avant d'habiter un territoire. C'est pour ça que je pense que l'écologie des langues est un des éléments constitutifs de l'écologie existentielle. Et donc Heidegger lui-même, en 1962, publie un texte, qui est une conférence du reste, qui est sa lecture de toute l'approche de la cybernétique et de Norbert Wiener, et qui s'appelle « Langage technique, langage de tradition », qui est un texte excessivement fameux, où il revient à la charge pour dire qu'on n'habite pas une terre, un terroir, au sens du rapport au sang et au sol, comme souvent on résume Heidegger pour mieux pointer évidemment sa déviation nazie. Non, moi je pense que lui, il conçoit vraiment l'habiter, c'est d'où sa référence au poète, à la langue. Et donc la langue, évidemment, va avec le numérique. On a là une transformation. Alors il y a un livre très important, c'est Ivan Illich qui me l'avait fait lire, un livre de Walter Ong, qui a enfin été traduit en français récemment, qui est un livre qui montre que l'écrit ne sera peut-être qu'une parenthèse de 500 ans dans l'histoire de l'humanité, et que ce qui prime, c'est cette oralité qui va aussi avec le corps, avec la respiration, etc.
Et de l'oralité à la chanson, il n'y a qu'un pas.
Keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city.
Stevie
Wonder, Living for the City, une chanson sur le mirage urbain, évidemment. Mais Antoine Mercier voulait vous poser une question, Thierry Pacot.
Voilà, bon, continuer un petit peu ce qu'on disait précédemment sur les lieux que nous habitons. Espace, temps, langue, c'est cette trilogie qui finalement fait que nous existons au sens existentiel du terme. Sur la langue, on vous a entendu sur l'espace, on vous a entendu sur le temps, mais sur la langue, comment se manifeste cette dégradation
ce
que vous évoquez, ce désastre urbain, ce désastre sur la langue?
Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a du désastre, évidemment, qui est aussi un appauvrissement de la langue, parce qu'un appauvrissement du commerce, un appauvrissement du logement, un appauvrissement, etc., vous avez compris où je veux en venir, appauvrir aussi le langage. Mais il y a, là où il y a oppression, comme on disait avant, il y a révolte, et donc il y a aussi création de langage, comme le rap, comme le slam, comme d'autres formes de créolisation qu'on n'a pas forcément repérées ici ou là, et qui résultent précisément de l'urbanisation. Parce que tout d'un coup, il y a des populations venues d'ailleurs qui sont là, et bien elles doivent acquérir une langue qui n'est pas la leur, et donc elles inventent comme ça des parlers un peu mixtes. Mais si je disais tout à l'heure qu'on est situationnel, relationnel et sensoriel, c'était pour aussi évoquer la langue, et ça c'est Ivan Illich qui me l'avait appris dans son très beau livre H2O, ou Les Eaux de l'oubli, où il explique qu'à l'époque de la Pléiade, de Ronsard, il y a une trentaine de verbes pour dire sentir en français. Donc on voit bien que plus on s'éloigne de la nature, moins on est sensorialisé par elle, plus on perd cette espèce de rapport aux choses. C'est pour ça que à la question de Michel Lussault tout à l'heure, et je continue à y penser maintenant, qui était sur le numérique. Moi, j'ajoute l'autre défi qui est arrivé presque au même moment dans nos sociétés, qui est le défi environnemental. C'est-à-dire comment rendre compte, comment donner la parole à ceux qui n'ont pas le même langage que nous, comme les plantes, les animaux, etc. Dominique Bourg, un de mes amis, travaille beaucoup sur un parlement, ou alors prenons Aldo Léopold, qui essaie d'expliquer qu'il nous faut apprendre à penser comme une montagne. Alors, comment penser comme un parking? Comment penser comme un arbre dans la ville? Voilà, ça, c'est des vraies questions.
Michel Louis, de ce point de vue-là, il y a 20 ans, Bruno Latour proposait un parlement des objets et on propose aujourd'hui un parlement des non-humains, ce qui n'est plus tout à fait la même chose.
Non, hein, non,
et
non,
on
non.
voit bien que l'environnement est passé par là. Justement, dans votre livre, vous faites une proposition qui est extrêmement intéressante, une proposition en fait d'engager une démarche de d'écosophie, de définir ce que serait cette écosophie, c'est-à-dire ce que vous appelez une géo-histoire critique environnementale. Et on a l'impression pour vous que cette géosophie récupère votre appétence pour la géo-histoire critique des mots et des concepts, mais y ajoute une dimension et que vous en faites aujourd'hui un peu l'horizon de votre pensée.
Alors, il faudrait un petit exercice de définition alors, sur écosophie, sur géohistoire, Thierry Pacot, pour que nos éditeurs comprennent bien de quoi on parle.
Alors, géohistoire, c'est un vieux copain à moi, Lucien Fèvre, qui en est à l'origine, avec aussi Marc Bloch, et puis leur élève, surtout, Fernand Braudel, qui va populariser cette expression. Il va même écrire une grammaire des civilisations, et je le dis là pour une des casquettes de Michel Lussault, celui qui s'occupe des programmes, ce serait pas mal.
Il n'est pas là pour ça aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas là, mais j'en profite. Qu'on supprime enfin.
Il pensait être sorti de là pendant 30 minutes.
qu'on supprime enfin cette distinction entre histoire et géographie. On ne peut pas saisir une chronologie sans la territorialiser et inversement. Donc la géohistoire est quelque chose de décisif et donc je l'ai fait pour la langue, mais je me suis aperçu en écrivant ce livre qu'on je ne disposais pas d'une géohistoire de environnementale des villes. On a des thèses, on a des travaux très localisés sur telle ville à tel moment, etc. Mais on n'a pas une approche générale. Pourquoi ? Parce que l'approche environnementale est tout à fait neuve et elle entre dans notre culture par le politique. C'est-à-dire qu'elle entre par des revendications, par des prescriptions juridiques, par des impôts, taxes, tout ce que vous voulez. Bon, alors qu'en fait, pour moi, l'écologie est une méthode. Méthodos, odos, la voie, le cheminement. Pour moi, l'écologie, c'est une méthode laquelle, celle qui est définie par Ernst Haeckel en 1866, quand il invente ce néologisme en allemand à partir du grec, oikos logos, il nous dit c'est l'interaction des éléments constitutifs d'un même ensemble. Et donc je suis, moi, pour toujours saisir les processus, les interactions entre le centre commercial, la ville, sa campagne. Et c'est pour ça que le politique, évidemment, n'a pas de réponse aux questions qui nous sont posées, parce que le politique fonctionne encore à l'ancienne, avec un ministère de l'écologie, ce qui est grotesque, évidemment. Si on était dans une approche environnementale de notre société, il n'y aurait pas ce type de ministère.
Et vous allez très loin, Thierry Pacaud, parce que vous avez même jusqu'à critiquer l'urbanisme comme étant aujourd'hui justement une science toxique. Voilà.
Ah, oui.
Comment vous dites, j'avais noté ça, c'est le moment occidental de l'urbanisation planétaire. Voilà. C'est
oui, même parce
une dimension postcoloniale.
Absolument, le mot apparaît sous la plume de Cerda en 1867. C'est aussi un néologisme. C'est ensuite traduit ou adapté en allemand. Enfin, en fait, il le découvre à part, sans relation entre eux, par Joseph Stubel et puis surtout par Camillo Sitte. Ensuite, ça va en Angleterre. En France, ça arrive en 1910. Bon, donc on peut faire la jolie histoire du mot. Mais ce que je n'avais pas compris quand j'ai commencé à enseigner dans un institut d'urbanisme, c'était la toxicité de ce mot. C'est que ça va avec la ville productiviste, la ville des gens en bonne santé, actifs et solvables. Ce qui n'est plus le cas de l'urbain diffus ou de l'urbain concentré dans lequel nous vivons.
Thierry Pacaud, par rapport à cela, ne peut-on pas dire que c'est moins l'urbanisme en tant que tel que Cerda le formalise, avec justement une attention à la relation entre toutes les parties que vous qualifiez comme la démarche environnementale et écologique, ça n'est peut-être pas tant l'urbanisme tel qu'il est défini par Cerda et ses continuateurs, que le moment où l'urbanisme devient un instrument dont se saisissent les ingénieries et de la puissance du capitalisme. C'est peut-être moins... Il faut peut-être non pas dévaloriser l'urbanisme, mais le faire revenir à ce qu'il était fondamentalement au départ, c'est-à-dire une sorte d'écologie urbaine.
Et nous n'oublions pas, effectivement, vous avez raison, que Cerda était pour l'époque, je parle à la fin du 19e, un militant socialiste qui avait fait une grande enquête sur les conditions de vie des ouvriers à Barcelone. Donc il a une dimension de grande attention à la question sociale, comme on dit. Qui aujourd'hui n'est pas la préoccupation centrale des technocrates qui rêvent de poursuivre le zonage avec des clusters ou avec des plateaux techniques.
Antoine Mercier.
Oui, on a quand même le sentiment, pour essayer de voir quelque chose de positif dans ce qui se produit aujourd'hui, qu'il y a une réaction malgré tout, qu'il y a une réticence à se lancer dans tous ces projets que vous dénoncez, y compris par exemple les tours, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une résistance sérieuse qui est en train de se mettre en place ou est-ce que ça fait partie du processus capitaliste ?
Alors, j'ai bien conscience d'être excessivement catastrophiste dans ce livre et de ne pas laisser de grande ouverture. J'en suis mari, bien évidemment. Mais pourquoi ? Parce que je m'aperçois qu'il ne faut pas mentir non plus. Et c'est que la puissance de frappe du système planétaire qui se met en place avec l'urbanisation de la Chine aujourd'hui, on évoque 30 000 gratte-ciel en Chine construits d'aujourd'hui à 2030, c'est-à-dire dans 15 ans seulement. Donc là, on avance vers des catastrophes qu'on peut déjà annoncer. Bon, ça, je ne vois pas comment on peut s'y opposer. Par contre, j'observe partout dans mes conférences en France, j'observe partout des lieux de résistance et c'est au niveau de vécu individuel de gens qui s'auto-organisent en habitat participatif ici, en réseau d'AMAP ailleurs, etc. Donc je ne suis pas totalement désespéré, je suis fondamentalement inquiet.
Alors pour réhabiliter l'urbanisme, j'attends les mails évidemment des urbanistes qui écoutent cette émission, on leur répondra. Peut-être il faut aller vers votre proposition, une proposition politique, Thierry Pacaud, tendre à un territoire composite, accessible gratuitement à une population variée, où chacun peut évoluer à son rythme, selon ses attentes.
Exactement.
Voilà.
Je signe.
Voilà le programme pour une politique de la ville, peut-être. On n'a pas parlé de la politique de la ville. Voilà, on en reparlera peut-être.
Elle est irréformable.
Irréformable. Voilà, l'institution empêche toute évolution. On l'aura compris dans votre pensée, Thierry Pacaud. Merci beaucoup d'avoir été à cette grande table aujourd'hui. Désastre urbain, les villes meurent aussi. C'est donc aux éditions de La Découverte. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur la page de La Grande Table sur France Culture. Merci à Philippe Baudouin qui était à la réalisation, à la technique, c'était Myriam Guillot et je vous dis à demain.